édition spéciale sur RFI.
Vincent Souriau.
Donald Trump bouscule le Proche-Orient. Il est temps de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël. Voilà les mots du président américain hier soir qui remettent en cause le statu quo. Condamnation unanime de la communauté internationale, des pays arabes, de la France, de l'ONU. Le Conseil de sécurité des Nations Unies va se réunir en urgence. On va esquisser les conséquences de cette déclaration avec vous, Julien Salingue. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en studio, enseignant à l'Université Paris 8, auteur de La Palestine des ONG aux éditions La Fabrique. Pour commencer, autant y aller franco, est-ce que Donald Trump vient de signer la mort du processus de paix au Proche-Orient ?
Signer la mort, je sais pas. En tout cas, peut-être qu'il arrête les soins palliatifs, quoi. C'est-à-dire qu'on a un processus de paix avec beaucoup de guillemets, qui de toute façon était moribond, sinon mort, depuis bien longtemps. Et on entend beaucoup depuis hier soir des mots comme rupture, changement qualitatif, etc. Je pense que symboliquement, dans le discours de Trump, il y a quelque chose de fort et qui est en rupture par rapport à ses prédécesseurs, mais par rapport à la politique concrète des États-Unis sur le terrain, la rupture, on la cherche, parce que dire qu'il y a une rupture, ça serait sous-entendre que les prédécesseurs de Donald Trump auraient agi fortement pour contraindre Israël à ne pas considérer Jérusalem comme leur capitale, ou à œuvrer réellement dans le sens de la paix, ce qui est très loin d'être le cas. Je rappelle que même s'il y avait eu des bisbilles entre Netanyahou et Obama, Obama a fini son mandat en signant l'aide états-unienne à Israël, la plus forte de l'histoire des États-Unis, avec 38 milliards de dollars sur une période de 10 ans.
Donald Trump, dans sa déclaration, dit qu'il est toujours attaché à la paix, qu'il va tout faire pour parvenir à un accord. Et on sait que son gendre, qui est aussi son conseiller, Jared Kushner, essaie de négocier en coulisses avec Israël et les Palestiniens. Est-ce que vous y croyez à cette deuxième version, cette version qu'on n'entend pas, mais selon laquelle Washington, en fait, essaierait d'obtenir un accord de son côté secrètement ?
Bah, disons que c'était la moindre des choses qu'il dise ça suite à ses déclarations sur Jérusalem, et puis il n'allait pas dire qu'il était attaché à la guerre, même si avec Donald Trump on peut parfois s'attendre à tout, mais disons que c'est la contrepartie, je pense, nécessaire, symbolique elle aussi, vis-à-vis des alliés régionaux. Notamment l'Arabie Saoudite et l'Égypte. C'est-à-dire que les Saoudiens, les Égyptiens ont fait des déclarations pour dire que formellement ils condamnaient, que c'était un recul, etc. On sait bien que ça ne va pas durer très très longtemps, ces condamnations, et il faut donner quelque chose, il faut donner le change. Et finalement, cette idée d'un plan de paix qui serait en négociation peut servir à donner le change, mais on est là encore dans le domaine du symbolique, puisque trancher la question de Jérusalem, qui est au cœur finalement du conflit entre Israël et les Palestiniens, trancher cette question tout en prétendant qu'à côté on est attaché à la paix, c'est vouloir faire rentrer dans la même équation deux termes qui ne peuvent pas y rentrer.
Ça pourrait pas être je vous donne Jérusalem d'un côté pour avancer sur le processus de l'autre, une sorte de monnaie d'échange?
Mais le problème, c'est qu'il n'y aura pas de paix possible avec les Palestiniens si Jérusalem est donnée à l'État d'Israël. C'est-à-dire que la déclaration est symbolique, mais on parle de quelque chose qui ne l'est pas. On s'était dit tout à l'heure sur l'antenne, on parle de 300 000 Palestiniens qui vivent à Jérusalem avec une situation de sous-citoyens, pas adapté parce qu'il y a le mot citoyen dedans, mais c'est-à-dire discriminés, sans droits civiques, sans même parler de leur situation économique et sociale. On parle d'une ville qui était pendant très longtemps le poumon économique, y compris de la Cisjordanie. C'est-à-dire que depuis que Jérusalem a été coupée du reste de la Cisjordanie, l'économie de la Cisjordanie s'en ressent énormément. Et on parle surtout d'une ville sur laquelle il y a un grand flou sur les frontières municipales. C'est-à-dire que pour Israël, Jérusalem, ça va quasiment jusqu'à la Jordanie. Donc ça coupe la Cisjordanie. Donc attribuer ça à l'État d'Israël ou reconnaître que ça appartient à l'État d'Israël, c'est empêcher absolument toute perspective de règlement pacifique de la situation.
On va écouter Saeb Erekat, le principal négociateur palestinien. C'était hier soir après l'annonce de la Maison Blanche.
Malheureusement, le président Trump vient d'anéantir l'idée d'une solution à deux États. Il vient de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël, en contradiction totale avec les accords signés entre les Palestiniens et les Israéliens. Les textes prévoient qu'aucune des parties n'agisse de manière à préempter le statu quo, y compris le sort de Jérusalem. Cette intervention n'a pour effet que de fermer des portes dans la négociation. Et je crois que le président Trump a disqualifié les États-Unis en tant qu'acteur du processus de paix.
Qu'est-ce que ça peut donner au niveau régional, Julien Salin, quand on entend l'Arabie Saoudite, par exemple, parler de recul? On peut pas dire que ça sonne comme un front arabe très virulent en faveur de la question palestinienne.
Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Et là encore, on n'est pas dans la nouveauté. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des déclarations de principe, de soutien à la cause palestinienne de manière très générale, de condamnation de certaines décisions de l'État d'Israël ou de prise de position des États-Unis. Mais disons qu'en termes de soutien concret, qu'il soit politique, économique, diplomatique, aux Palestiniens, les États arabes sont très très loin d'être des alliés. Si on prend l'Égypte, on parle beaucoup du blocus sur Gaza. Le blocus sur Gaza est de la responsabilité principale de l'État d'Israël, mais les Égyptiens coopèrent avec Israël pour assurer le blocus sur la bande de Gaza. Et les Saoudiens, on sait qu'il y a un jeu régional en ce moment, et une rivalité de plus en plus marquée avec l'Iran, qui se traduit au Liban avec la crise qu'on connaît, qui se traduit évidemment en Syrie, qui se traduit au Yémen, qui se traduit en Irak. Et dans ce cadre-là, l'Arabie Saoudite essaie de consolider ses positions en resserrant les liens avec les États-Unis, mais aussi avec l'État d'Israël. Et autant dire que pour le régime saoudien, et notamment pour le prince héritier MBS, comme on l'appelle,
Mohamed Ben Salman,
l'enjeu de l'alliance stratégique avec les États-Unis et Israël dans le cadre de l'affrontement avec l'Iran est beaucoup plus important que celui de soutenir les quelques millions de Palestiniens dans leur petite prison. Donc on a les déclarations de forme, mais en réalité on n'aura pas de front loin de là, et de toute façon, étant donné la situation régionale, un front arabe, avec beaucoup de guillemets, est totalement inenvisageable, notamment avec ce qui se passe dans la région depuis 6 ans.
On rejoint Guilhem Deltay, notre correspondant à Jérusalem, en direct. Bonjour Guilhem.
Bonjour Vincent.
Les réactions en Israël, on les imagine plutôt positives?
Oui, ce sont effectivement avant tout des réactions de joie, de satisfaction pour les Israéliens. Jérusalem est déjà leur capitale. C'est là que siègent le gouvernement, le Parlement et la Cour suprême. C'est aussi à leurs yeux la capitale historique du peuple juif. Ils voient donc dans cette décision de Donald Trump à la fois une reconnaissance d'une réalité actuelle et celle d'une réalité historique. Jérusalem est la capitale du peuple juif depuis 3000 ans. C'est la capitale d'Israël depuis presque 70 ans, a ainsi déclaré Benjamin Netanyahou hier soir dans une vidéo diffusée quelques minutes tout juste après la fin du discours du président américain. Le Premier ministre parle d'un jour historique, un avis qui transcende d'ailleurs les divisions politiques. Les chefs des deux principaux partis d'opposition, le parti travailliste et Yesh Atid, un parti de centre-droit, ont tous deux salué cette décision. Le chef de la formation de centre-gauche avait juste dit espérer que cela serait accompagné de mesures à même de ressusciter le processus de paix. Mais pas de fait. En revanche, dans les rues, hier soir, il faut dire, Vincent, que le froid et la pluie n'incitaient pas au rassemblement, mais le maire de Jérusalem avait fait projeter les drapeaux israéliens et américains sur l'une des murailles de la vieille ville avec ce message en dessous: 6 décembre, Jérusalem applaudit le président Trump. Et le pont suspendu à l'entrée de Jérusalem, un symbole de la ville moderne, était lui aussi illuminé aux couleurs des États-Unis.
Qu'est-ce que l'on dit de tout ça dans le camp de la paix, Guilhem?
Eh bien, une partie des Israéliens s'inquiète des conséquences de cette décision. C'est une mauvaise nouvelle pour Israël, a déclaré l'organisation anticolonisation La Paix Maintenant. À ses yeux, elle sape les chances de paix. L'ONG souligne que la ville n'est pas plus unifiée après la déclaration de Donald Trump qu'elle ne l'était avant et que son statut est avant tout et tout autant disputé. Enfin, La Paix Maintenant partage l'analyse des responsables palestiniens. Pour eux, les États-Unis ont perdu leur rôle d'intermédiaire honnête. De son côté, l'organisation de défense des droits de l'homme B'Tselem estime qu'aucune annonce unilatérale, qu'aucun déménagement d'ambassade ne peut changer le fait que des pans entiers de la ville sont occupés. Elle estime que des centaines de milliers de résidents palestiniens sont privés de leurs droits et elle réclame que ce soit cette réalité-là qui change. Mais ces demandes trouvent peu d'écho dans la classe politique israélienne.
Guilhem Deltay à Jérusalem. Julien Salingue, deux questions en une. Est-ce que le camp de la paix existe encore et est-ce que des violences vont éclater à Jérusalem dans les heures, les jours qui viennent?
Le camp de la paix existe de manière, il est réduit à la portion congrue, on va dire. Voilà, en Israël, il faut comprendre que le champ politique israélien est quand même très polarisé sur la droite et l'extrême droite hein, qui gouverne, et que ceux et celles qui aujourd'hui en Israël continuent de dire qu'il faut respecter les droits nationaux du peuple palestinien sont très 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 minoritaires, et y compris subissent de plus en plus de répression hein, de la part des autorités. Et est-ce qu'on peut s'attendre à des violences? Oui, c'est possible que demain, notamment lors de la prière, des prières, il y ait des incidents, il y ait des violences, etc. Mais comme ça se produit de manière quasiment régulière, cyclique, était évoqué tout à l'heure l'épisode d'Idé Portique en juillet dernier. Donc c'est possible qu'il y ait des incidents parce que symboliquement quand même la déclaration de Trump et la satisfaction des autorités israéliennes ne peut qu'agacer, on va dire les Palestiniens, mais on n'est pas dans une situation où les forces politiques palestiniennes seraient en capacité d'organiser un soulèvement de masse, parce que ce qui domine aujourd'hui dans la population palestinienne, c'est quand même la fatigue, la résignation et une difficulté à envisager l'avenir.
On jette un œil à la presse française. Bonjour Frédéric Couteau.
Bonjour Vincent, bonjour à tous.
Consternation et inquiétude dans les journaux français.
Oui, il l'a fait. Soupir Libération, de Paris à Téhéran, du Vatican à Istanbul, de Bruxelles au Caire, toutes les chancelleries ou presque l'avait imploré de ne pas jouer avec le feu, soit modifier le statut de Jérusalem, mais rien n'aura entamé la volonté de Donald Trump, à rebours de toute logique. Hier, comme les médias américains l'annonçaient depuis plusieurs jours, le président a donc reconnu officiellement Jérusalem comme capitale d'Israël, une annonce qui aurait dû être faite depuis longtemps, a-t-il dit, au risque d'embraser le Moyen-Orient et de tuer dans l'œuf le deal ultime qu'il s'est targué de sceller depuis son arrivée à la Maison-Blanche pour résoudre l'interminable conflit israélo-palestinien. Le Figaro renchérit en reconnaissant Jérusalem comme capitale d'Israël, s'engageant à y transférer l'ambassade des États-Unis. Donald Trump vient de tirer un trait sur des décennies de diplomatie internationale et de politique américaine. Son coup de poker fait peser sur la région la menace d'un nouvel embrasement et risque d'enterrer définitivement un processus de paix moribond. Il fait peser une autre incertitude. Les États-Unis peuvent-ils encore jouer le rôle d'honnête parrain des négociations entre Israéliens et Palestiniens? Donald Trump, quant à lui, veut croire que son pari sera payant. L'avenir dira, conclut le Figaro, s'il a dynamité le processus de paix ou bien s'il a réussi à le relancer contre toute attente.
Jérusalem, Trump souffle sur les braises, s'alarme ce matin la Croix.
De toutes les négociations, de toutes les tentatives, il y a une certitude qui émerge. Rien ne sera possible si cette cité de Jérusalem est l'objet d'un accaparement, estime le quotidien catholique. Sa gloire est d'être un phare pour des femmes et des hommes du monde entier. Jérusalem ne sera fidèle à elle-même que si elle demeure, selon les mots du psaume 121, la ville où tout ensemble ne fait qu'un. Ouest France hausse le ton en choisissant son camp, l'ultra-droite israélienne et sa méthode du fait accompli. Donald Trump ne fait pas œuvre de pragmatisme, il insulte le droit international, le peuple palestinien, les sensibilités arabes, musulmanes, chrétiennes et l'intelligence de millions de juifs qui savent le péril qu'une telle politique leur fait courir. Finalement, déplore enfin la montagne, Donald Trump, ici comme ailleurs, n'a que faire des opinions internationales, des avis du Conseil de sécurité et des pressions amicales. Il joue en solo sa partition, c'est-à-dire l'unilatéralisme, qui est la marque de sa présidence, et il plante sur le dossier de la paix au Proche-Orient, qui était déjà bien mal parti, un énorme point d'interrogation.
Frédéric Couteau, merci Julien Salingue. En 10 secondes, la communauté internationale peut-elle agir? Est-ce que vous y croyez encore?
J'ai du mal à y croire, et pourtant ce serait possible. Vous savez, en 2014, l'Union européenne a dit que la politique en Russie, de la Russie en Crimée, était illégale et illégitime, et elle a adopté une batterie de sanctions contre la Russie en quelques semaines. C'est possible, mais visiblement contre l'État d'Israël, c'est beaucoup plus compliqué, alors que ce serait possible.
Julien Salingue, merci beaucoup, enseignant à l'Université Paris 8. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, La Palestine des ONG, aux éditions La Fabrique. Merci à vous, Frédéric Couteau, pour cette revue de presse. Les infos dans une petite minute.